Il est 18h au studio Kalangou. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition de ce 26 juin au micro Nefis Adam Sirfo. Les titres de ce journal-là. Aujourd'hui, journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue. Le préfet du département de Théra évoque des sensibilisations menées sur les sites d'orpaillage de la région où l'on enregistre des pertes en vies humaines à cause de la consommation des stupéfiants. L'inscription du centre historique d'Agadez au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, célébré le week-end dernier à Agadez, à suivre le reportage dans cette édition. Le programme d'appui à la société civile organise demain un panel à l'endroit de ces organisations pour les soutenir dans leur intervention auprès des institutions publiques, des précisions dans le magazine d'aujourd'hui. Aujourd'hui est commémorée la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue. Dans le département de Théra, les jeunes consomment ce produit nocif sur les sites d'orpaillage, ce qui cause régulièrement des pertes en vies humaines. Afin d'éradiquer ce fléau, les autorités départementales font des tournées pour sensibiliser la jeunesse, selon le préfet de Théra, Hamadou Halidou.
Actuellement, il y a des jeunes qui sont devenus fous face à cette consommation-là. Tant que le gars n'a pas pris ses comprimés-là, il n'est pas normal. Vraiment, ça a un impact négatif. Tout sur les sites orifères, chaque jour, il y a des morts, il y a des sites libres dans des trous-là. Même avant-hier, j'étais obligé d'envoyer la patrie à Combabang parce qu'il y a un flux immigratoire d'hommes. On est en train de faire des formations de sensibilisation. Les trois départements là, Bankilare, Gauté, etc. Chaque fois nous sommes en tournée pour sensibiliser cette jeunesse-là, surtout sur les sites d'orpailleurs. On est en train de sensibiliser la jeunesse-là à laisser ses stupéfiants, à ne pas consommer ses stupéfiants pour leur propre santé et pour le développement de ce pays-là.
Lundi 17 juin, les autorités de la ville de Tawa ont pris une nouvelle mesure interdisant la vente de la chicha. Selon Aliou Aboubakar Larios, secrétaire général de la ville de Tawa, la police applique déjà la décision en ramassant les matériels de chicha dans les rues. Il est au micro de Abdoulaye Aoussouka.
Nous avons pris un arrêté qui permet à la police de mettre la main sur tous les consommateurs et les vendeurs de chicha. Parce que la consommation de chicha ne fait que accentuer le chômage des jeunes et la délinquance. Alors que nous sommes à un moment où tout le monde doit sortir, travailler, contribuer pour le développement de notre pays. Je pense que la jeunesse doit se lever, aller travailler, contribuer au développement de notre pays. Par rapport à la deuxième mesure d'utilisation de pétards ou la vente de pétards aussi, nous avons pris un arrêté d'interdiction. Et là aussi, nous avons autorisé la police nationale, la police municipale, pour mettre la main à tout utilisateur ou vendeur de ces pétards, parce que en tapant ces pétards-là, ça entraîne une confusion de ne pas comprendre est-ce que c'est un pétard, c'est une arme. Donc là, les gens vont être en confusion. Nous avons besoin de la contribution de la population.
Ce jour 26 juin est célébrée la 32e journée internationale de soutien aux victimes de la torture. À Niamey, la Commission nationale des droits humains a animé une conférence et le président de l'institution a rappelé que la torture est une négation de la dignité inhérente à l'être humain. Khalid Ikri, que je vous propose d'écouter.
La torture vise pour l'essentiel à briser la personnalité de la victime et constitue par conséquent une négation de la dignité inhérente à l'être humain. Malgré l'interdiction absolue de la torture en vertu du droit international, elle persiste à travers le monde. Les questions sécuritaires sont souvent mises en avant pour la justifier, ainsi que d'autres formes de traitement cruel, dégradant et inhumain. Ces conséquences vont souvent au-delà de l'acte isolé sur un individu et peuvent être transmises à des générations et conduire à des cycles perpétuels de violence. C'est pourquoi l'Organisation des Nations Unies a toujours condamné la torture comme l'un des actes les plus vils commis par des êtres humains sur leurs semblables.
Des propos recueillis par Moussa Hassan, l'agence nigérienne de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants est à Mayayi. L'objectif de cette mission conduite par la directrice générale de cette agence est de sensibiliser les autorités et les populations sur le phénomène de la traite des personnes et l'importance de l'établissement d'une carte d'identité nationale. Gojeme Mouna Gazibo au micro de notre envoyé spécial Mokhtar Hamadou.
On est venu d'abord essayer de leur expliquer l'ordonnance sur la traite en Hausa pour qu'ils comprennent mieux, leur dire comment identifier une victime de traite, comment appuyer une victime de traite, comment la référencer. Si c'est une victime nigérienne, comment l'aider pour une réinsertion socio-professionnelle. On sensibilise aussi beaucoup à leur disant la migration, c'est une activité normale. Vous avez le droit de migrer, mais s'il vous plaît, quand vous le faites, faites auteur à votre pays, en ne vous versant pas de la prostitution, en ne vous versant pas de la mendicité. C'est surtout des échanges pour leur dire c'est quoi le devoir de porter le nom d'un pays. Il y a des Nigériennes qui sont dans les rues de tous les pays dans le cadre de la mendicité avec des enfants en âge de scolarité qui n'inscrivent pas à l'école. C'est leur dire non. Même lorsque vous vous déplacez, les enfants que vous entraînez avec vous, ayez le réflexe de ne pas compromettre leur droit à l'éducation.
En bref, depuis avril 2016, l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, a secouru près de 20 000 migrants lors de ses opérations au Niger, avec une moyenne de sauvetage de 1 200 migrants par mois. Le 15 juin, 406 migrants, dont 7 femmes et 4 enfants bloqués dans le désert du Sahara, ont été secourus, a annoncé mardi l'agence onusienne, rapporte une dépêche de l'AFP d'aujourd'hui. Dans de nombreux cas, les migrants périssent de faim et surtout de soif, après avoir été abandonnés par les passeurs ou lorsqu'ils s'égarent dans le désert ou sont victimes d'une panne de voiture. Nous pensons que les questions de sécurité, de paix et de stabilité passent par la contribution de la chefferie traditionnelle. C'est ce qu'a déclaré ce matin à Agadez le gouverneur Sadou Soloké à l'occasion de la réunion du Conseil régional de sécurité qui se tient dans cette capitale du Nord Niger. Le gouverneur Sadou Soloké au micro de Moussa Maman.
Nous pensons que les questions de sécurité, les questions de paix et de stabilité passent par la contribution combien importante de la chefferie traditionnelle. Et nous pensons bien redynamiser cet espace d'échange que nous avons de temps en temps avec la chefferie traditionnelle. Et nous comptons l'excellente contribution de la chefferie traditionnelle d'Agadez afin qu'on améliore sensiblement le niveau de sécurité de la région d'Agadez, particulièrement dans la ville d'Agadez.
Lundi, deux gendarmes à Burkinabé ont été tués et un grièvement blessé lors d'une attaque contre leur véhicule à Arbinda, localité du nord du Burkina Faso, déjà touchée par des attaques djihadistes, a annoncé mardi. La gendarmerie nationale rapporte une dépêche de l'AFP. La région nord du Burkina Faso, frontalière du Mali et du Niger, est le théâtre depuis 2015 d'attaques djihadistes régulières qui ont fait plus de 460 morts selon un décomptage de l'AFP. Placé sous le thème « Conservation du patrimoine et promotion de la cohésion sociale », la 6e édition de la journée d'inscription du Centre historique d'Agadez au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO a été célébrée samedi 22 juin au palais du sultan de Laïra. Une occasion pour quelques habitants d'Agadez de dire tout ce qu'il y a de bon dans cette inscription depuis 6 années maintenant. Reportage de Anissé Karim.
C'est dans une ambiance festive, comme femmes et enfants vêtus de leurs plus beaux habits traditionnels se sont donné rendez-vous tôt samedi au palais du sultan de Laïr pour célébrer la journée de l'inscription de la vieille ville d'Agadez au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une inscription qui a apporté un changement au sein de la communauté selon plusieurs Agadéziens.
Les changements visibles, c'est la réhabilitation avec les mêmes matériaux. Certaines infrastructures comme les palais, comme la mosquée, au lieu de dépenser l'argent pour arranger ta maison et que ta maison est arrangée avec l'argent que tu n'as pas dépensé, on peut dire aussi que c'est une retombée économique.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que nous ignorons en ce qui concerne la vieille ville, mais nous sommes édifiés maintenant. Et il y a les jeunes qui s'intéressent maintenant à ces coutumes.
Le sultan de Laïr, Oumarou Ibrahim Oumarou, satisfait, réitère sa confiance à la population pour la sauvegarde du patrimoine. Le gouverneur de la région d'Agadez, Sadou Saloké, a rappelé les raisons qui expliquent cette inscription de la vieille ville d'Agadez au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Agadez est inscrite sur cette importante liste du patrimoine mondial sur la base des critères 2 et 3. Les piliers de ces deux critères sont fondés sur le rôle joué par le sultanat depuis des siècles et la richesse de son architecture, surtout en terre. En témoigne le minaret de la grande mosquée Emiskine qui mesure 27 mètres de haut.
Les festivités de la commémoration de la 6e édition de la journée d'inscription du centre historique d'Agadez au patrimoine de l'UNESCO se sont étalées sur 3 jours avec diverses activités au sultanat. Annie Sekari, Agadez pour le studio Kalangou.
Le fleuve Niger connaît un dessèchement prononcé ces dernières années selon le directeur départemental de l'environnement du Gaïa. La dégradation du sol, l'ensablement et le dérèglement climatique sont quelques-unes des raisons qui expliquent ce dessèchement. Abdoulaye Moussa Issa au micro de Ramatou Issa Wanki.
Si nous prenons en amont, le dessèchement du fleuve est dû à plusieurs facteurs. D'abord, le facteur premier du fleuve, c'est l'ensablement des lits du fleuve. Le fleuve, depuis un certain temps, était très ensablé, de sorte que ces dernières années, vous constatez, dès les premières pluies, des inondations au bord du fleuve. Le deuxième aspect, c'est le climat. Donc vous avez ces derniers temps, le Sahel a des températures très élevées. La cause essentielle de cet ensablement, c'est la dégradation des berges du fleuve Niger. Le fleuve Niger est entouré des massifs forestiers et des affluents qui ravitaillent le fleuve Niger. Or, il se trouvait que autour de ces affluents, les végétations qui sont là aujourd'hui n'existent plus.
Suivez les programmes du studio Kalangou partout dans le monde grâce à sa page Facebook.
La page Facebook du studio Kalangou.
J'aime et je partage.
À présent, la partie magazine de ce journal a 5 800 000 euros, soit environ 3 800 000 de francs CFA. C'est le montant que l'Union européenne prévoit d'investir pour améliorer l'intervention des organisations de la société civile nigérienne, des organes et institutions publiques. Les recommandations d'un panel prévu demain jeudi à la Chambre de commerce de Niamey permettront de rendre plus efficace la participation de ces organisations, explique le chef de mission de l'assistance technique du PASOK 3 Ibrahim Dem au micro de Reylat Soumana.
C'est un programme qui vise à renforcer les capacités des organisations de la société civile et qui est à sa troisième phase. Le PASOK a un principal instrument de financement qu'on appelle l'appel à proposition, qui est doté d'un budget de à peu près 3 800 000 de francs CFA. Donc les organisations de la société civile nigérienne sont invitées à soumettre des propositions évaluées par un comité mis en place par le ministère des Finances et l'Union européenne pour retenir les prix pertinents qui vont être financés dans le cadre de ce programme-là.
Comment ça a marché pour les deux précédents PASOK et qu'est-ce que vous visez à travers cet appui-là?
Les rapports d'évaluation que nous avons examinés sont arrivés à la conclusion que les résultats sont mitigés. Il y a eu des acquis quelque part, mais il y a eu également des échecs, surtout dans le cadre de l'octroi des subventions. Parce que dans le cadre du PASOK 2, il y a eu beaucoup de micro-subventions qui ont été attribuées à beaucoup de petites organisations. La démarche était pertinente pour atteindre les petites organisations qui sont dans les zones reculées. Mais il y a eu un problème de suivi.
Comment comptez-vous remédier à cela?
Déjà, au niveau du PASOK 3, le nombre de subventions accordées a été revu à la baisse. On ne va pas aller au-delà de 25 contrats de subvention. Mais les montants de ces contrats de subvention est également revu à la hausse.
Un panel d'échange qui est prévu demain, qui a pour thème la participation des organisations de la société civile dans les organes et institutions publiques au Niger. Pourquoi avoir choisi exactement ce thème-là?
Au Niger, la Constitution prévoit des mécanismes de participation. Le Code des collectivités territoriales prévoit également des mécanismes de participation. On a également un ensemble d'outils, de mécanismes qui favorisent la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques à travers les organisations de la société civile. Et aujourd'hui, pour nous, il s'agit de revisiter ce concept de participation. Qu'est-ce qu'il recouvre? Quelles sont les valeurs que charrie le concept de la participation? Comment cette participation est mise en œuvre dans les différents organes, les différentes institutions, sur le plan juridique, sur le plan conceptuel et sur le plan opérationnel? Et ce panel-là est une occasion de rassembler la société civile autour de cette problématique. Et nous avons prévu une série de communications avec des universitaires qui travaillent sur le concept et le cadre juridique, mais des acteurs qui sont sur le terrain et qui vivent régulièrement la question de la participation pour qu'on puisse faire ensemble l'état des lieux. Et nous souhaitons que tout le monde vienne écouter, participer et contribuer. Après ce panel, nous pourrons avoir des recommandations qui nous permettent d'accompagner davantage les acteurs de la société civile pour rendre la participation plus efficace et plus crédible pour l'intérêt de tous les citoyens.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Retrouvez tout de suite une rediffusion du forum sur la reprise de la commercialisation du poisson et de la culture du poivron de la région du Diffa. Quel impact sur l'économie et chez les habitants? Et c'est avec Mokhtar Hamadou. Le forum de la presse.
L'actualité de la semaine commentée par le journaliste nigérien.
Tous les vendredis à 18h15 sur le studio Kalangou.
Studio Kalangou, au rythme du Niger.